Aujourd'hui, nous recevons François Baroin, ministre de l'économie du gouvernement central. Monsieur Baroin, bonjour. Vous êtes venu à Tahiti soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles. Nous allons commencer cet entretien par une question d'ordre national. Quelles sont les idées fortes du programme porté par Nicolas Sarkozy?
D'abord, il faut bien voir que ce programme s'inscrit dans un contexte de crise mondiale sans précédent, notamment sur le plan économique. On n'a jamais connu ça dans le monde depuis 1929. Et probablement que 1929 était plus faible en termes d'impact que ce que le monde traverse depuis maintenant 3 ou 4 ans. Donc il y a des enjeux européens de protection de la zone euro, de la monnaie, c'est-à-dire des économies des Français et des Européens, de consolidation budgétaire, c'est-à-dire de réduction de déficit. On a des engagements, on doit les respecter. Et en même temps de soutien à l'activité, à la croissance, en préservant le modèle social, c'est-à-dire en préservant la solidarité, la redistribution vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ce qui a été fait. La France est un pays qui a eu une récession deux fois moins importante qu'en Allemagne, est sorti plus vite, a retrouvé le chemin de la croissance plus rapidement que les autres. Et s'il n'y avait pas eu la question grecque et la question des dettes souveraines, probablement que la France aujourd'hui aurait un temps d'avance. Donc l'objectif, c'est évidemment de ne pas dévier de cette trajectoire, de poursuivre l'action et d'amplifier le système de réforme. C'est ce qu'on a fait avec les universités, les retraites, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi au niveau économique.
Vous avez été ministre de l'Outre-mer pendant 2 ans sous Jacques Chirac. Quelle est votre perception de la Polynésie française?
Bon, j'avais été d'abord très impressionné, et ça reste un des souvenirs les plus forts probablement de ce ministère magnifique, le ministère de l'Outre-mer, parce que c'est à la fois l'État, mais ce sont surtout des territoires, des populations, des cultures, des personnalités. Enfin, c'est vraiment une merveille trop peu connue d'ailleurs en métropole, aussi bien sur la qualité du vivre ensemble, sur l'attachement des valeurs traditionnelles qui font justement qu'on a ces valeurs en partage et qu'on doit les défendre coûte que coûte. Et la Polynésie est l'un des territoires évidemment les plus grands, c'est grand comme l'Europe, donc il y a naturellement à accompagner, à soutenir, notamment sur le plan financier, pour tout ce qui concerne les conditions de développement, c'est-à-dire les infrastructures, l'accès à tous les archipels, la protection des jeunes, la préservation de leur insertion également dans le tissu économique. Mais évidemment, c'est un modèle économique fragile et la crise mondiale a amplifié les difficultés du modèle économique polynésien. Et je dois dire qu'il faut que les engagements qui sont pris par le pays soient respectés. En tout cas, l'État, lui, tient sa parole sur l'accompagnement et la poursuite de l'accompagnement financier. Mais il faut aussi faire des économies un peu partout, y compris ici.
Dans le programme de Nicolas Sarkozy, quelles sont les grandes lignes qui auront un bénéfice immédiat pour la Polynésie française?
D'abord, peut-être un mot sur le bilan de Nicolas Sarkozy au service de la Polynésie. La dotation octroyée par l'État français à la Polynésie a été renforcée. Elle représente aujourd'hui environ 150 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Elle a une valeur législative, ce qui n'était pas le cas. Précédemment, c'était une convention. Et les communes peuvent également à présent bénéficier d'une partie de cette dotation afin de se dégager de l'influence exclusive du gouvernement local. C'est pas rien. Sur le plan de l'emploi, 1500 contrats à durée déterminée ont été mis à disposition en 2011, ce qui est pas simple, hein, parce qu'on est en période de disette budgétaire. C'est dire la priorité qui a été accordée dans les arbitrages par le président à la Polynésie. La même chose sur les 3500 chantiers de développement qui ont été consacrés à la Polynésie en 2012. Là aussi, c'est un choix de ne pas réduire l'implication financière de l'État malgré les économies et malgré les réductions de déficit au niveau national. Et puis, il y a le vote de la réforme statutaire de 2011 à la quasi-unanimité du Parlement national. L'objectif, c'est évidemment de rétablir la stabilité puis de redonner aussi du sens, de la cohérence et de la durée à l'action politique en Polynésie.
Alors justement, le bilan de Nicolas Sarkozy est plutôt mitigé aussi pour la Polynésie française avec la suppression de l'ITR, une loi de Morin jugée inefficace. Que diriez-vous aux électeurs sur le territoire pour qu'ils votent encore pour Nicolas Sarkozy?
D'abord, je rappelle que l'ensemble des mouvements autonomistes aujourd'hui qui constituent les forces politiques vives de ce territoire sont autour de Nicolas Sarkozy, c'est pas par hasard. C'est celui qui inscrit au nom de l'État une certaine vision du soutien, de l'accompagnement, dans le respect naturellement du statut de l'autonomie et de l'enracinement dans l'environnement régional. Je crois que ça, c'est un point important. Il a annoncé des mesures fortes il y a une dizaine de jours, notamment sur le fait, par exemple, qu'on pourra, à l'échelon local, suivre les dossiers de défiscalisation jusqu'à 3 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'on double le potentiel d'examen à l'échelon local, pas besoin d'aller à Paris, pas besoin d'aller à Bercy et pas besoin d'aller beaucoup plus loin que l'intérêt local. Il y a aussi l'engagement d'une réflexion collective qui doit définir ce qu'est le développement économique du territoire pour les 10-15 prochaines années. Il y a tout ce qui concerne naturellement les exonérations pour les charges concernant les employeurs qui embauchent des jeunes. Tout ça, ça va évidemment dans la bonne direction. Et j'ajoute aussi qu'on est dans un lien d'attachement très profond et très puissant entre la Polynésie française et la République.
Pourtant, le président sortant n'est jamais venu ici en Polynésie. Certains sont tentés de dire loin des yeux, loin du cœur.
C'est un regret de sa part. Il m'a chargé d'ailleurs de l'exprimer profondément puisque je suis son envoyé dans le cadre de cette campagne présidentielle. Je sais son attachement à l'outre-mer, je sais son implication. Vous savez, moi j'ai été porte-parole de Chirac, j'ai été le ministre de l'Outre-mer de Chirac. Chacun connaît l'attachement, l'engagement personnel de Chirac au service de l'Outre-mer en général, de la Polynésie en particulier. Il y a eu une vraie volonté de la part de Nicolas Sarkozy, dès qu'il est devenu président de la République, de s'impliquer, d'accompagner. Il a mis en place les états généraux, il y a eu une réflexion globale pour permettre à chacun de définir son propre destin. Et puis il a pris l'engagement de venir cette année, si la confiance lui est accordée par les Français, pour présenter ses voeux de l'Outre-mer ici en Polynésie. Ça lui permettra de confirmer tous les engagements que je prends en son nom aujourd'hui.
Vous connaissez l'éternel clivage autonomiste-indépendantiste. Vous avez eu affaire en un certain temps à Oscar Temaru et ses accords de Tahiti Nui. Comment arriver à dépasser ce clivage ?
C'est le propre de la République de permettre à chacun d'exprimer librement ses convictions. Et les convictions de M. Temaru sont connues, elles sont indépendantistes. Et d'autres, immense majorité des Polynésiens, ont des convictions d'autonomie, d'attachement aux valeurs de la République française. Et comme je l'avais dit à l'époque, il y a 6 ans, y compris dans mon entretien avec M. Temaru, on peut être soi-même, c'est-à-dire vivre ses convictions en étant ensemble. C'est justement la force du lien qui unit l'ensemble des territoires ultramarins, quel que soit leur statut juridique, et la République française. On a des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. La liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. L'égalité, c'est une égalité en droit. C'est encore plus vrai, en effet, quand ces territoires sont loin des centres de décision, et c'est pour ça qu'il faut de l'autonomie, c'est pour ça qu'il faut de l'enracinement local. La fraternité, sur le plan de la politique publique, ça prend la forme des politiques de solidarité vis-à-vis des aînés, à travers les retraites, vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté avec le RSA ou avec les indemnités chômage quand il y a un accident de la vie sur le plan professionnel. Et puis, il y a aussi la laïcité, cette façon de vivre ensemble, de respecter les cultes, les croyances, les ferveurs, les doutes, les scepticismes. Tout ça, ça fait partie de cette magnifique lignée d'un héritage qui nous vient de loin, que nous devons protéger et préserver. Et pour le reste, je crois qu'il y a vraiment évidemment d'autres priorités que de s'interroger sur les évolutions institutionnelles. La priorité, c'est le développement économique. La priorité, c'est de relever le tourisme. La priorité, c'est de soutenir l'économie endogène dans un environnement qui a beaucoup d'atouts. Bien sûr, il y a l'ombre portée de puissances comme la Chine ou l'Inde dans cet environnement régional. Mais c'est aussi une chance. Ce sont des marchés à conquérir. Il ne faut s'excuser de rien, ni de ses innés, ni de son potentiel. Et donc, il faut aller de l'avant. Et il faut aussi, quand même, utiliser l'argent du contribuable à bon escient et peut-être embaucher un peu moins dans les administrations du pays et irriguer un peu plus le soutien qu'apporte l'État à travers les dotations pour le soutien économique, pour l'investissement et donc pour la création d'emplois.
Pour vous, quelles sont les ressources du pays à développer et comment les développer ?
Les ressources, elles sont connues. Moi, il faut le dire, la crise internationale a vraiment mis en lumière les difficultés d'un système qui était fragile. C'est pour ça d'ailleurs que la période traversée par la Polynésie sur le plan budgétaire est une période compliquée. Mais les atouts autour du tourisme, autour de la perle, autour de l'utilisation des terres rares en profondeur, autour d'un savoir-faire sur le plan de l'activité des services, ça fait partie des éléments de soutien. Mais je pense que le tourisme doit être évidemment remonté très significativement.
Vous parliez des terres rares avec 5 millions de kilomètres carrés de ZE2. Comment la France compte protéger et exploiter ces ressources convoitées maintenant ?
Là aussi, il faut le faire en bonne intelligence et je crois que ça devrait faire partie du pacte, de la définition de ce que doit être la Polynésie à 15 ou 20 ans. Il faut que tous les acteurs économiques, syndicaux, politiques, institutionnels, qui représentent des forces vives, se mettent autour de la table, s'entendent sur une méthode de travail, l'inscrivent dans un calendrier de préparation, définissent communément des objectifs et l'État sera là pour accompagner.
Dernière question, que pensez-vous du mode de fonctionnement des institutions polynésiennes ?
Elles ont été modifiées sur le plan statutaire pour trouver de la stabilité. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas encore complètement parvenu. Et c'est vrai que ce sentiment que... On parle beaucoup d'évolution institutionnelle et je pense que les Polynésiens, en tout cas c'est les témoignages que j'ai de l'extérieur, j'ai gardé un certain nombre d'amis ici et de ce que je vis depuis quelques heures ici, qui remonte, c'est occupez-vous d'abord du développement économique, de l'avenir des jeunes, de la formation des jeunes, de l'insertion du territoire dans un environnement économique qui est tiré vers le haut, plutôt que de réfléchir à ça en permanence, en tout temps, tout lieu, toute circonstance, sur ces évolutions institutionnelles qui ne régleront pas l'affaire du développement économique.